Voigny. Cette semaine, Ilana Navarro rencontre Alice Cherki. Ce soir, la lutte pour l'indépendance et l'inquiétude.
Bonsoir Alice Cherki.
Bonsoir.
Nous avons parlé hier de votre rencontre avec France Fanon, de l'expérience de social-thérapie qu'il a mis en place à l'hôpital psychiatrique de Blida, où vous avez été interne, alors que la guerre d'Algérie battait son plein. Nous allons parler aujourd'hui de la suite de cette aventure. Alice Cherki, vous êtes partie de Blida suite à l'expulsion de France Fanon. Comment s'est passé ce départ ?
Pas simplement à la suite de l'expulsion de Fanon. Nous sommes partis, j'ai pas été la seule. Nous sommes partis parce que la guerre, si j'ose dire, et la répression, et la torture, et les arrestations faisaient rage, pas simplement sur ce qu'on appelait, comme je vous l'ai rappelé, les Arabes, etc., mais aussi tous les libéraux, ce qu'on appelait les libéraux à l'époque, qui étaient tous ceux qui étaient progressistes, c'est-à-dire, et qui étaient partisans de l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens arrêtés. Et effectivement, nous avons eu le sentiment qu'une descente pour des arrestations allait être faite à l'hôpital de Blida, psychiatrique donc, et que moi, je n'avais pas beaucoup de goût pour la prison. J'avais 20 ans, je venais de me marier avec Charles Géronimi et nous avons décidé de partir comme si nous partions en vacances à Paris.
Alice Cherki, lorsque vous êtes arrivée à Paris en 1957, vous êtes inscrite en tant qu'interne, il me semble, dans les hôpitaux de Paris ?
Pas tout de suite, parce qu'il fallait préparer, si vous voulez, ce qu'on appelait à l'époque le concours des internes des hôpitaux psychiatriques, qui était un gros, gros travail. Et on a trouvé des petits boulots, si vous voulez. Je me souviens, Charles travaillait pour les prélèvements dans un laboratoire. Il faisait du porte-à-porte à domicile. Alors pour quelqu'un qui était interne en psychiatrie, bon, enfin, il fallait bien vivre. On a tout de suite recontacté, si vous voulez, ou on a été recontacté par pas mal d'étudiants algériens de l'UGEMA de l'époque qui était à Paris. L'UGEMA, l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, avec ce centre qui était boulevard Saint-Michel, le fameux centre du boulevard Saint-Michel, où il était question de savoir s'il fallait arrêter la grève, pas arrêter la grève. Moi, j'avais pas le droit de vote, hein. C'était l'UGEMA, on n'avait pas le droit de vote, mais enfin, on assistait.
Mais vous avez dû fuir Paris, vous avez dû fuir la France.
Oui, on a fui la France, mais en 58. On est resté un an et demi ici. On a passé l'internat, j'ai passé l'internat des hôpitaux psychiatriques de la Seine. J'avais même été recrutée avant parce que justement les internes français nommés, etc., avaient tous été rappelés sous les drapeaux. Et très peu avaient réussi soit à devenir insoumis, soit à trouver des prétextes pour pas y aller. Donc beaucoup étaient partis et les postes d'internes étaient vacants. Donc j'ai été contractuel, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelait, provisoire. Et puis on a passé l'internat des hôpitaux psychiatriques de la Seine. Moi j'ai été nommé provisoire. Je dois dire que c'était un exploit, parce que la première année, être tout de suite nommé la première année, surtout dans les conditions dans lesquelles j'avais préparé ce concours, c'était plutôt bien. Moi j'étais disposé à rester, je veux dire, dans le milieu des internes à Vielle-Évrard ou à Maison-Blanche, où il y avait l'ombre de Bonafé, de Tosquelles, de Follin, enfin bon, c'était plutôt, pas avec tout le monde, mais c'était plutôt assez intéressant. Il y avait les gens étaient plutôt, même tous ne prenaient pas, étaient plutôt pour que ça change en Algérie, qu'on pourrait dire. Et puis moi, j'apprenais, je veux dire que j'ai toujours aimé ça, si vous voulez. J'ai toujours, en même temps que mes activités, j'aimais ça, découvrir. En plus, comme je vous l'ai dit probablement hier, j'étais une petite Algéroise quand j'ai débarqué ici, voilà. Mais je veux dire qu'il y a eu des grands Derrida, Safia Ibar et tout ça, c'était aussi des Algérois, faut pas. Mais ce qui a déclenché, d'abord, c'est vrai que la pression se faisait de plus en plus forte sur, sur tout ce qui était devenu la Fédération de France, ceux qui commençaient à cacher des gens ou à transporter. Le réseau Janson se mettait en place.
Peut-être voilà. Qu'il faut dire que c'est un réseau qui fabriquait des faux papiers, des cartes d'identité pour ceux qui voulaient pas participer à la guerre d'Algérie.
Au plus que ça, hein, qui transportait aussi des armes et qui trouvait des planques pour les militants, puisque c'était comme ça qu'on disait, les militants de la Fédération de France qui étaient pourchassés ou en danger. Paris n'était pas un long fleuve tranquille. Donc nous avons décidé, oui alors là-dessus il y avait un rappel anticipé de certains sursitaires et il se trouve que Charles Géronimi a reçu une convocation pour annuler son sursis et qu'il aille être enrôlé dans l'armée française, ce qui était impensable. Mais il s'est trouvé que il n'avait plus aucun papier d'identité en règle. Il avait passeport périmé, carte d'identité périmée. Et que, en un jour, j'ai décidé de partir avec lui. Moi, j'aurais pu rester. Nous devions, alors c'était le périple de l'époque, rejoindre la Suisse où quelqu'un viendrait nous chercher pour nous faire traverser l'Italie pour arriver après à Tunis. C'était un trajet assez classique, on pourrait dire. Je suis partie avec lui et j'ai improvisé comme ça un petit scénario qui consistait à ce que nous allions de l'autre côté du lac, du côté français, et que nous prenions le lendemain matin, très tôt, un petit train qui traverse, qui passe d'une rive à l'autre du lac, en prétextant que j'étais jeune mariée et que j'avais fait un caprice qui consistait à demander à mon mari d'aller boire, prendre le petit déjeuner de l'autre côté du lac. Voilà. Et ça a marché. Les douaniers ont salué ce jeune couple et nous ont laissé passer.
Expliquez juste peut-être pourquoi la Tunisie, pour qu'on puisse vous suivre.
Ah, parce que la Tunisie et le Maroc, mais la Tunisie c'était plus près, si vous voulez, plus accessible, venaient s'installer ce qu'on appelait les bases, la base extérieure du FLN. Il y avait Aban, il y avait tous les militants de l'extérieur, enfin peu importe les noms maintenant, qui étaient regroupés comme base du Front de Libération Nationale et à Tunis et au Maroc, voilà, des deux côtés. Fanon était déjà à Tunis. La Tunisie venait d'acquérir son indépendance, donc il y avait déjà cette une certaine effervescence, si vous voulez. Il y avait le ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Ben Salah, était un type progressiste, qui était très accueillant envers les réfugiés algériens et ceux qui venaient, d'autant plus que il manquait de personnel, il manquait de gens, surtout dans les hôpitaux, dans les services sociaux, etc. Et qu'ils étaient prêts à nous accueillir pour qu'on travaille en partie pour eux. Voilà, c'est ce qui s'est fait, tout naturellement. On s'est retrouvés internes à la Manouba, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'hôpital psychiatrique de Blida, de l'époque, à Tunis. Où Fanon était déjà. Oui, Fanon nous a reçus à bras ouverts. Hein. On a eu des places, on a été logés à l'internat de la Manouba. Il était très content de nous voir, je crois. Je pense qu'il était très très content que ces internes reviennent. Quoi. Je me souviens que Fanon a créé l'hôpital de jour à l'hôpital de Charles-Nicolle de Tunis, et qu'on a créé. Littéralement, puisque c'était un bâtiment. Fanon me disait, bon alors, de quelle couleur on fait les murs? Des choses comme ça, si vous voulez. Mais on a quand même créé un service de pointe.
C'était similaire à celui que vous avez créé à Blida?
Non, plus. Parce que là, il n'y avait pas d'internement. Il n'y avait que ce qu'on appelle un hôpital de jour, c'est-à-dire que les patients, patientes aussi, venait le matin et repartait le soir. Il n'y avait pas de rupture avec le milieu social et familial.
Et ça aussi, c'était une méthode de psychiatrie qu'il revendiquait, Fanon.
Ah oui, oui, tout à fait, au contraire. En disant que... Mais ça, c'est classique. Je veux dire, c'est devenu classique. Tenter de ne pas couper l'aliéné, quel qu'il soit, avec son milieu culturel, son milieu social, son milieu familial, parce que sinon, on ne regarde que le symptôme et ça devient une chronicisation de la maladie. Quand on enferme dans l'hôpital psychiatrique, et l'enfermement ne fait que chroniciser la maladie mentale.
Et donc, il y a eu un moment où ils vous ont nommé pour aller en tant que boursière en Allemagne de l'Est, c'est ça ?
Beaucoup plus tard. Ce qu'on appelait à l'époque les pays de l'Est offraient des bourses aux étudiants algériens et aussi certains étudiants d'Afrique noire, dont notamment la Guinée, je crois. On m'a proposé cette bourse-là pour finir mes études là-bas, pour œuvrer pour l'Algérie indépendante, parce qu'on aurait besoin de praticiens formés dans l'Algérie indépendante. Et c'est à ce titre-là que moi, qui ne connaissais pas un mot d'allemand, qui était quand même d'un milieu où on ne portait pas en odeur de sainteté ce pays, pour le dire d'une façon un peu euphémique, quoi. J'y étais, je me suis retrouvé à Leipzig, à l'Institut für Ausländer, qui est l'équivalent de l'Institut Goethe, que les gens connaissent maintenant, et où j'ai partagé ma chambre avec une petite Vietnamienne du Nord, une chambre de 8 mètres carrés. C'était une très belle expérience aussi, parce que franchement, elle était très, très raide, si vous voulez. Moi, j'ai l'impression que j'avais parcouru un univers par rapport à elle, si vous voulez. C'était très... Voilà. Et puis après...
Donc vous étiez entouré quand même d'une dizaine, d'une centaine d'étudiants algériens, c'est ça ?
Une dizaine. Mm-hmm. Une dizaine. Après, je ne sais plus, mais à l'époque, une dizaine. Voilà. À un moment donné, à Tunis, il a été décidé de supprimer le M de l'UGMA, l'Union Générale des Étudiants Musulmans Algériens. Alors, grande effervescence, puisque c'est les étudiants répartis un peu partout. Il y en avait en Suisse, il y en avait en France, il y en avait en Allemagne de l'Ouest, en Union Soviétique. Et, je ne sais pas pourquoi, tous les étudiants de l'Allemagne, et même ceux de l'Ouest d'ailleurs après, m'ont désigné comme leur délégué. Nous, on était loin, vous savez, c'est pas le moyen de transport qu'il y a actuellement, de communication actuelle. Et on a appris que j'avais fait un scandale parmi les chefs de l'UGMA de l'époque, dont certains que j'avais connus à Alger d'ailleurs, pour au moins l'un d'entre eux, en disant que c'était pas possible que Alice Cherki, qui était, je crois même que ça avait été ajouté juive de surcroît. Hein. Il n'y avait pas simplement qui n'était pas musulmane, mais aussi qui était juive de surcroît, viennent représenter les étudiants de cette partie algérienne. Nous, on ne comprenait pas vraiment, parce qu'on ne nous disait rien. Et si ce n'est que j'ai eu un rappel qu'il fallait immédiatement que je rentre en Tunisie, parce qu'on avait besoin de psychiatres, puisque tu étais, voilà. Et ce n'est que plus tard... Ah oui, quand je suis arrivée à Tunis, j'étais arrêtée par la police tunisienne, qui se demandait pourquoi ils m'arrêtaient, moi qui me demandais pourquoi j'étais là, d'ailleurs, parce qu'on avait dû leur indiquer que j'étais peut-être un agent de la Stasi, et qu'il fallait m'interroger. Enfin, ils ont été très gentils, là. Mais c'était ubuesque, hein, je dois vous dire. Franchement, alors là, quand vous m'en parlez, j'ai encore une image de ça. Est-ce que moi, j'étais une petite jeune femme, enfin bon, j'étais pas une Amazone, quoi. Et eux, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils avaient à me demander, effectivement. Voilà. Et bon, après, et c'est après que j'ai appris, une fois que je me suis retrouvée en Tunisie, chargée de créer un service, etc. Et puis en plus, je me suis rendu compte qu'ils savaient pas quoi faire de moi. Parce que tu es voilà. J'avais vécu quand même à Tunis, même si j'étais pas dans les hautes sphères de trucs, en voyant les contradictions qu'il y avait, j'avais quand même appris les conditions de l'assassinat de Aban Ramdane, qui était un ami. Je suis un peu avec lui qu'on
Ramdane
s'est engagé.
Ramdane, qui était le dirigeant le plus politique du FLN, c'est comme ça qu'on peut le décrire peut-être, l'architecte de la révolution.
Oui, il était pour la primauté du politique sur le militaire, voilà, pour employer l'expression consacrée.
Et donc il a été assassiné en 1957 au Maroc.
Sur l'ordre de trois autres dirigeants du comité directeur du FLN à l'époque. Il a fallu faire le silence sur cet épisode, y compris pour Fanon et nous. Nous, de toute façon, on ne nous a pas demandé notre avis, nous, on était des petits étudiants. Parce que, au nom du peuple, au nom de la guerre du peuple algérien, il ne fallait pas qu'à l'intérieur, il ne fallait pas que dans le monde, un tel épisode soit reconnu. Voilà. Donc, moi, j'avais déjà bien vu toutes les contradictions qu'il y avait au sein même de la direction et de la façon dont aussi, moi je peux parler librement, et la façon dont aussi beaucoup d'entre eux étaient complètement coupés de ce qui se passait à l'intérieur du pays. Il y avait même des trucs, y compris quand je suis revenu à Tunis, on était par exemple, je me souviens, avec quelqu'un qui s'appelait Ramon Descartes, qui était syndicaliste, on s'est occupé des maisons d'enfants, etc. Et nous avions toujours le projet d'essayer d'élaborer quelque chose de la société de l'Algérie indépendante, surtout après tous ces morts et tout le départ des élites. Mais on n'était que des tout petits groupes. Je veux dire que dans certaines instances dirigeantes, enfin représentatives du Front de Libération Nationale, c'était leur truc, c'était des luttes de pouvoir.
Vous rappelez de votre retour en Algérie après quelques années d'absence, le jour de votre tour. Est-ce que vous vous rappelez de ça et qu'est-ce que ça vous a évoqué?
Oui. Disons que quand je suis rentré en Tunisie, où j'ai eu donc ces fonctions, il y a eu les accords de Melun 61 qui n'ont pas abouti, et puis la préparation des accords d'Évian. Et il se trouve que au moment des accords d'Évian, il y a eu ce qu'on a appelé les gens du Rocher Noir, qui était un truc intermédiaire avant les élections de juillet 62. C'est-à-dire qu'entre mars et juillet 62, il y avait ce gouvernement transitoire. Ça, c'est historiquement pour resituer les choses. Et pour ceux d'entre nous qui étions à Tunis, il avait été proposé, surtout les médecins, parce qu'on manquait de personnel médical, dans la mesure, tout se lit en même temps, dans la mesure où les médecins français, des hôpitaux français, y compris les psychiatres, en ce qui me concerne, partaient d'Algérie en emmenant en plus leurs propres malades, dits européens, et que en même temps, c'était pas très tranquille, hein. L'Algérie, surtout les grandes villes, entre mars et juillet 62, parce qu'il y a eu le florissance de l'OAS, c'était la guerre dans les villes, etc. Donc, ceux qui voulaient rentrer et qui, justement, ne devaient pas faire l'objet d'une amnistie du côté français, pouvaient rentrer en Algérie. Je dois dire, il y avait quand même pas mal de gens, il y avait pas mal de médecins algériens qui étaient réfugiés en Tunisie avec leur famille. Et ça aussi, il faut le dire sous forme de boutade. Ils ont dit, on veut rentrer, mais nous on veut rentrer par la route avec nos femmes, nos enfants, nos meubles, etc. Bon, les deux seuls, je dois dire, qui ont accepté de rentrer immédiatement, c'était Jeanine Belroja et moi-même. Voilà, deux petites bonnes femmes. On est rentré en mars 62 et puis on s'est retrouvé à Alger. Et effectivement, on s'est retrouvé à Alger un peu dans la zone Bellecour, Kouba, etc. Pas le centre-ville, hein, parce que on a découvert comme ça que bien que Alger était, c'était feu à sang. Il y avait l'OAS d'un côté, l'armée française complètement perdue de l'autre. Moi, je suis très sévère avec l'OAS. Je vous dis la vérité. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez dénoncé. Sauf qu'il y a eu un livre récent de Ruscio qui est paru, qui a fait le poids. Mais pendant des années, on n'a pas assez dénoncé ça. Vous savez qu'il rentrait dans les maisons à Alger. Et tous les gens, y compris parmi les Européens, qui étaient soupçonnés d'être en faveur de l'indépendance de l'Algérie, ils en ont fusillé un certain nombre. Et il y en a qui ont dû obliger de partir alors qu'ils voulaient rester. Et il y avait... Bon, enfin, c'était la pagaille, si j'ose dire. Donc moi, je me suis retrouvée d'une part d'abord à Bellecour, où Omar Ousdik m'a dit « Écoute, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de soins. Les psychiatres français sont tous partis. Donc, ben, tu t'en occupes. » Voilà. Donc j'ai fait ça à Bellecour et après je me suis retrouvée à l'Ermitage, ça s'appelait à l'époque. Voilà. Bon, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Alger, mais très très enfermée dans cet hôpital, puisque il y avait un seul infirmier, Youssef Odandor, il a mis toute sa fortune dans sa bouche. Et puis les malades algériens sans médicaments. Une superbe clinique, très moderne. Et puis tous les pauvres gens qui arrivaient de Kabylie, etc., pour faire renouveler leurs médicaments. Alors il y en a qui arrivaient à Dodane. Et j'ai vécu d'une façon assez... Bon, c'était très intéressant, parce qu'à l'époque aussi sont arrivés à ce moment-là des internes en psychiatrie français que j'avais connus, 3 ans ou 4 ans avant, et qui venaient aider, qui sont venus aider. Dont certains croyaient que, là aussi, ils commençaient à être tiers-mondistes, voilà. Ils croyaient que l'Algérie allait donner l'exemple au monde entier. Moi, j'ai passé des discussions le soir, une fois qu'on n'avait rien bouffé, hein, le soir, pour leur expliquer qu'ils se trompaient, que ce n'était pas du tout comme ça que ça allait se passer. Il y a eu ce mouvement-là, hein. Alger, capitale de la Révolution.
Bah, il y avait un côté véridique là-dedans, non ?
Disons que l'indépendance était nécessaire et inévitable.
Mm-hmm. Voilà. Juste peut-être, racontez-nous le 5 juillet 1962, juste vos impressions de ce jour-là à Alger.
Bon, écoutez, moi j'étais donc dans cette clinique, on était enfermés, je veux dire, puisque je me souviens qu'il y avait certains journalistes qui était logé à l'hôtel Aleti, là, qui s'intéressait à tout ça, mais il y avait des gens comme Albert-Paul Lantin, Guy Sidbon, enfin des gens de l'époque, des journalistes d'investigation très connus. Et moi, j'étais... je sais qu'à un moment donné, il y a eu un épisode où une des filles qui était venue nous aider, qui s'appelait Anne, avait voulu absolument sortir, et elle avait été blessée dans un tir entre l'OAS et les gens de la zone autonome. Et dans les journaux, y compris dans Le Monde, il y avait un entrefilé en disant qu'une jeune psychiatre avec le prénom A avait été blessée. Un gros émoi, tu voilà. Je me souviens que Guy Sidbon avait été voir mes parents à Paris pour leur dire que c'était pas moi. Ouais, c'était un peu... Moi, je sais pas, j'ai engueulé la fille, là, Anne après, je l'ai vraiment engueulée en lui disant que je lui avais dit qu'il fallait pas qu'elle sorte toute seule de ce, voilà. Donc, le 5 juillet, ben, moi, j'étais très contente et en même temps inquiète. Voilà. J'étais contente parce que franchement, voir tous ces gens sortir de quartier, marcher librement dans les rues d'Alger, il y avait tous les petits drapeaux, des petites filles que les mères avaient confectionnées, des habits aux couleurs du drapeau, et qui marchaient comme ça avec leur tenue neuve, très fièrement dans les rues, les gens qui avaient été privés de musique, ça aussi c'est des choses dont il faut parler, qui avaient été privés de musique pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui pouvaient enfin faire de la musique, qui pouvaient enfin chanter, parce que c'était interdit de tous les côtés, hein, la musique, pendant cette guerre-là, oui. dans les villes. Donc j'étais vraiment très très contente, c'était un C'est vraiment très... Je pense que la plupart des gens qui ont vécu, même ados, ça, s'en souviennent. Souffle comme ça. Et une chose que je dis, je ne crois pas que ma mémoire me trahisse, c'est que tout ce qu'avait été, c'était en français et en arabe, Algérie algérienne. Il n'y avait pas un panneau Alger, en tous les cas, de Algérie arabo-musulmane. Il n'y avait pas un panneau des gens qui défilaient dans les rues d'Alger qui portaient ce panneau-là. Dans mon souvenir. Je ne sais pas comment c'était ailleurs. Donc, mais moi qui avais connu le pataquès, excusez-moi de l'expression pataquès, mais enfin de l'extérieur, et qui avait fréquenté la population de Belcourt, Ussindé, Kouba, que je n'avais pas vu pendant des années, en rentrant entre mars et juillet 62, je me suis rendu compte qu'ils ne savaient rien de ce qui se tramait à l'extérieur entre l'armée des frontières, le GPRA.
GPRA, c'est-à-dire gouvernement provisoire de la République algérienne.
Oui, et ce à quoi eux, ils aspiraient, après 7 ans comme ça. Et le slogan aussi dans les rues, surtout d'abord le 5 juillet, et puis après, quand ils ont eu les échos de tout ce qui se tramait par rapport à la querelle de pouvoir entre le GPRA et l'armée, c'était, je vais vous le dire en français, 7 ans, ça suffit. Les femmes sont sorties dans les rues d'Alger, et d'ailleurs aussi, en disant « Srebrenica Barakat ». Oui, il y a eu tout ce mouvement des femmes qui sont descendues. Ça suffisait, c'était pas du tout ça. Donc ils ont rien compris au film. C'était, on veut que nos enfants retournent à l'école, on veut pouvoir travailler, on veut pouvoir faire de la musique, on veut pouvoir... Voilà, c'était ça, c'était l'aspiration du peuple algérien, de l'Algérois, de l'ensemble de l'Algérois. Le reste, et moi je me disais, quand ils vont savoir ce qui va arriver de la... Il y a eu aussi une guerre entre les gens du GPRA et l'armée des frontières avec Ben Bella. Et ça, on en paye. Je dis, on en paye constamment le prix, aujourd'hui, dans ce pays que j'aime, de la fondation de l'indépendance sur la violence. Ça s'est fait sur la violence, sur une violence illégitime. Voilà. Et c'est très difficile.
Vous étiez inquiète parce que vous connaissiez l'Algérie de l'extérieur mieux que l'Algérie. Les gens qui étaient dans
Bien
l'Algérie
sûr.
De l'intérieur.
Voilà, j'ai tout dit.
Merci Alice Cherki.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Ilana Navarro avec Alice Cherki. À voix nue. Réalisation Rafik Zénine, prise de son Éric Audra, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.